Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode pour ce mois d'avril 2023. Alors, je reçois Aïcha, elle est documentariste et communicante marocaine basée en France. Aujourd'hui, nous allons parler de plaisir, d'éducation sexuelle et des mystères autour de la sexualité. Vous verrez, vous entendrez surtout la douceur d'Aïcha. Et vous nous entendrez aussi inventer des mots comme endoconsentement. Alors apparemment, ça n'existe pas. Aïcha s'excuse, elle voulait parler d'autoconsentement. Et puis moi aussi, j'ai inventé des mots. Voilà, il était tard et c'est ainsi. Voilà, vous nous excuserez. Je vous laisse avec cet épisode. Vous savez maintenant aussi comment soutenir ce podcast et comment montrer que vous l'avez apprécié en le partageant autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à votre entourage, sur vos réseaux sociaux, en mettant des étoiles et ou des cœurs sur votre plateforme d'écoute. Bonne écoute! Aïcha est documentariste et communicante marocaine basée en France. Parce qu'elle souhaitait montrer le plaisir féminin dans la diversité de ses réalités, elle a réalisé en 2020 un très beau documentaire appelé « Mystère et boule d'orgasme ». C'est un documentaire qui libère la parole autour du plaisir féminin, découverte du clitoris, exploration de sa vulve, sans tabou, avec émotion, à travers les témoignages d'hommes et de femmes de tous âges. Aïcha a une sensibilité au plaisir et à la beauté des corps qu'elle partage également en créant du contenu sexo sur Instagram sous le nom de Mystère et Boule d'Orgasme. Aujourd'hui, nous allons parler de plaisir, d'éducation sexuelle et des mystères autour de la sexualité. Aïcha, bienvenue sur le podcast.
Merci Camille, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci de m'accueillir.
Alors ta page Instagram, Mystère Boule d'Orgasme, est vite devenue une plateforme de partage, de richesse sur plein de sujets qui touchent la sexualité. Déjà, pourquoi Mystère et Boule d'Orgasme ?
Alors, si tu me parles du titre, il m'est venu comme ça. Je me posais la question de quel titre j'allais donner à mon film et j'ai dit le mot mystère comme ça et puis et Boule d'Orgasme. Juste après, puis j'ai gardé. C'est la première idée qui m'est venue.
Simplement, c'est ça souvent le premier truc qui vient comme ça.
C'est ça, c'est un petit peu ironique, ouais. Parce que on a souvent considéré l'orgasme féminin comme un mystère, quelque chose qui a été très mystifié. Donc il y a un peu d'ironie dans ce titre et puis c'est venu assez naturellement.
Oui, c'est vrai, comme tu dis, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de fausses croyances aussi autour de la sexualité. Et d'ailleurs, ma question aussi, c'est quelle était ton intention, justement, en produisant et en sortant ce documentaire ?
Mon intention, je dirais que c'était de visibiliser des réalités, des paroles qui n'étaient pas assez visibles. À l'époque d'ailleurs, parce que depuis on en parle de plus en plus et c'est très, très positif. Et donc de visibiliser certaines choses, certains témoignages, et puis d'en faire une source d'information, une ressource en fait, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur le sujet de l'orgasme féminin, sur le sujet de l'orgasme en général et de la sexualité.
Et d'ailleurs, quand tu as fait ce documentaire, donc c'est à travers différents témoignages, est-ce que tu as eu de la difficulté à justement trouver des personnes qui acceptent de partager leurs témoignages facecam ? Parce que ce n'est pas évident non plus. Hein.
Absolument. Alors, il y avait énormément de personnes qui voulaient bien témoigner, mais pas facecam. Donc, j'ai dû faire le tri Puis c'est une question de confiance aussi. J'ai pris le temps de discuter avec chaque intervenante avant de passer en interview devant une caméra. Et ça s'est fait au feeling. Ça a pris pas mal de temps, mais j'ai eu une certaine facilité, je pense, à échanger avec ces personnes-là parce qu'on avait pris le temps au préalable de discuter. Et puis ma petite technique que je pourrais partager, oui, c'est de parler de moi, de choses personnelles à ces personnes-là. Ça instaure une certaine confiance plus facilement et ça permet d'encourager à la libération de la parole.
Oui, puis ça met du coup sur un pied d'égalité, tu partages quelque chose d'intime et ces personnes-là te partagent quelque chose d'intime aussi.
Exactement.
Et du coup, dans les partages, parce que tu as des hommes, tu as des femmes, déjà, est-ce qu'il y avait une différence dans les partages ? Parce que les hommes qui témoignaient, là, je ne me souviens plus s'ils témoignaient du plaisir féminin ou de leur plaisir à eux.
Un peu des deux. Il y a eu un petit peu des deux. Est-ce qu'il y a eu une différence ? Il y a eu une différence entre chaque intervenant et chaque intervenante, en fait. Ce n'est pas réellement une question d'âge. C'est plus une question de facilité à parler, à s'ouvrir ou pas. Mais c'est toute la richesse, je pense, de ce travail-là, c'est de voir la pluralité, la diversité des réalités des différentes personnes. Tous les témoignages étaient absolument différents. Il n'y en a pas eu deux qui étaient similaires. Et c'est ça qui était très, très intéressant pour moi.
Oui, parce que c'est comme on disait déjà en intro, c'était vraiment pour montrer la diversité des différentes réalités, des vécus des uns et des autres, de montrer à quel point certaines personnes qui disent j'ai découvert le clitoris, d'avoir des grandes révélations comme ça, de partager des choses intimes. Et donc tu as su à merveille les faire, comme tu disais, avec ce lien de confiance, qu'ils puissent partager quelque chose d'intime vis-à-vis de ça. Et par rapport à ce documentaire aussi, par rapport au retour maintenant des personnes qui ont visionné le documentaire, quels ont été les retours ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Qu'est-ce qu'on t'a partagé ?
Alors, il y a eu pas mal de retours positifs, j'étais contente, notamment des personnes qui me partagent le fait que le documentaire leur a permis de mettre des mots ou mettre le doigt sur une certaine situation où elles ont déjà vécu et que ça les a rassurées d'une certaine manière. Et c'est ça le plus important pour moi dans ce partage de témoignages, c'est que ça puisse faire écho dans les vécus de certaines personnes et rassurer en fait d'une certaine manière ces personnes-là dans leur existence, dans leurs expériences, dans ce qu'elles ont pu vivre. et qui parfois sont des choses difficiles à vivre quand on n'a pas d'exemples de personnes qui ont pu vivre la même chose. C'est ce qui était le plus intéressant à mon sens.
Donc de rassurer, de sentir qu'on n'est pas seul, qu'on est normal, qu'à travers différents témoignages, on peut piocher et se retrouver là-dedans. On parlait tout à l'heure des croyances ou des mystères autour de la sexualité des femmes, mais aussi sûrement des hommes. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager autour de ça, de ces fausses croyances ou de ce qui revient le plus, que ce soit dans le documentaire ou même à travers ta page Instagram?
Alors, justement, la page Instagram, ça a été intéressant de voir comment il y a plusieurs sujets qui reviennent souvent, même après le film, parmi les témoignages que je recevais. Ça tournait beaucoup autour d'une certaine pression, de honte, plusieurs messages qui terminent par « je me demande si je suis normale ». S'il y a d'autres personnes qui ont vécu le même genre de situation, des questionnements aussi pour la première fois, et ça m'a fait énormément plaisir de voir qu'il y a des jeunes personnes qui se posent des questions pour leur première fois et qui vont chercher de l'aide. On n'a pas du tout pour la plupart eu la chance à l'époque d'avoir ce type de ressources, oui, d'avoir une éducation sexuelle en général. C'est un peu plongé dans l'inconnu. C'était le cas pour la plupart des personnes, je pense. Je ne sais pas du tout où je voulais en venir.
Bah, ouais, de ce qui t'a vraiment enthousiasmé, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est de voir que du coup, ça a apporté des réflexions et que même les personnes, et là, les jeunes personnes se posaient la question de leur première fois, voulaient vraiment, alors bien faire, c'est entre guillemets, hein, vraiment, mais se renseigner là-dessus, c'est ça, et te poser du coup des questions sur comment faire, c'était quoi le genre de question?
Exactement. Bien faire, entre guillemets. Je pense que c'est faire de manière sécure et dans le respect. Dans le respect de l'autre, mais aussi de son propre corps. On peut avoir tendance, quand on n'a pas les informations nécessaires, quand on n'a pas les exemples nécessaires, de, comme je disais avant, plonger dans l'inconnu et faire ce qu'on pense devoir faire sans vraiment se poser la question de se respecter, de respecter son corps, de l'écouter et de faire ce que notre corps, en fait, a envie de faire à l'instant T, et pas ce que notre mental croit qu'il devrait faire pour gérer cette situation-là, comme on nous donne l'impression qu'on devrait le faire.
Et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est ton impression aussi, que ce soit là, ces dernières années, à travers les médias, voire même Instagram, que cette notion, bon, déjà de consentement, ça, ok, mais cette notion de écouter son corps, se respecter, c'est tout nouveau, et peut-être d'autant plus chez les femmes, je ne sais pas, mais en tout cas, cette question-là de « je veux me respecter, je veux écouter mon corps, je veux pouvoir exprimer mes limites », c'est quelque chose d'assez nouveau, je ne sais pas si toi, tu as aussi cette impression-là.
Absolument. L'endoconsentement, donc le consentement avec soi-même, et aussi important que le consentement à l'égard de quelqu'un d'autre ou de quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas réellement mis en avant parce qu'il y a des schémas sexuels qui ont été construits, parce qu'il y a des rôles de genre également qui ont toujours plané un peu au-dessus de nos expectations.
De nos attentes, de nos expériences.
Nos attentes. C'est un anglicisme. Merci. Et donc, oui, je pense que le plus on a d'informations, le plus il y a de messages de consentement, donc d'autoconsentement qui passent, je pense que le mieux ce sera pour les personnes qui n'ont pas encore eu de sexe et qui se posent des questions sur comment faire du sexe, sur tout ça.
Et alors, avant de te poser la question comment faire du sexe pour une première fois, entre guillemets, c'était la première fois que j'entendais cette notion. Tu parles donc d'endoconsentement, c'est-à-dire déjà écouter son consentement à soi si on a envie, si ça part d'un réel désir, c'est ça?
Oui, le consentement avec soi-même, c'est demander le consentement à son propre corps. C'est s'écouter et faire en sorte que tout ce qui se passe à l'instant T soit OK pour son corps et qu'il n'y ait que du plaisir de l'échange, pas de douleur. Je vais prendre l'exemple de la douleur. Il y a beaucoup de personnes, notamment des femmes, dans des contextes hétérosexuels, qui prennent l'habitude, j'ai reçu plusieurs témoignages là-dessus, qui prennent l'habitude de pratiquer la pénétration, la circlusion, avec de la douleur et qui supportent en fait cette douleur et qui la normalisent parce que quand on a eu mal la première fois, on se dit que c'est peut-être normal et qu'on a dans tous les cas mal quand on fait l'amour. Ça peut prendre une tournure de normalisation. Là, la question du consentement avec son propre corps, c'est là qu'intervient cette question de se dire qu'il n'y a rien qui fasse mal. Parce que si ça fait mal, c'est qu'il y a un problème quelque part. Que ça soit au niveau de la lubrification, au niveau de la manière de faire ou de la position, si on parle de pénétration. On avait fait un post là-dessus d'ailleurs qui s'appelait « Si ça fait mal, c'est que c'est mal fait ». C'est se dire je ne sais plus où est-ce que j'allais.
C'est de se dire que c'est pas normal en fait d'avoir mal, c'est ça en fait, c'est oui. De pouvoir dire ne sous-estimez pas la douleur, alors c'est pas sous-estimez pas, mais ne dévalorisez pas cette douleur en fait, cette douleur il faut l'écouter, mais pas dans le sens j'y vais quand même, c'est dans le sens il y a quelque chose où on doit prêter attention, et donc comme tu disais, soit la lubrification, soit le contexte, soit le geste, il y a tellement de raisons qui peut conduire à des douleurs et c'est important de les écouter.
Absolument.
Et du coup, dans cette notion aussi d'écouter le consentement avec soi, tu parlais d'écouter son corps, de vraiment d'être à l'écoute, ça demande du coup aux personnes vraiment de pouvoir déjà de se connaître aussi, mais aussi d'être dans le moment présent. On en parle beaucoup de la pleine conscience, d'être vraiment attentive à ses émotions, à ses sensations, au moment T. Et ça, je me rends compte que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, l'idée c'est de pouvoir y tendre, aller vers ça, être focalisée, attentive à ce qui se passe au moment T pour se dire est-ce que j'en ai envie là maintenant tout de suite ou est-ce que je ressens de la douleur là maintenant tout de suite, c'est tout un cheminement des fois pour certaines personnes.
Absolument. Donc, je pense qu'il peut être difficile de réussir à se détacher de tout ce qui nous entoure pour vraiment se concentrer sur son corps. Mais ça peut se faire petit à petit, avec des exercices de méditation, de respiration, se dire qu'on peut le faire, et petit à petit, ça viendra. De toute façon, c'est un chemin qui durera tout au long de notre vie. Il n'y a pas de moment où on est complètement aligné, et qu'il n'y a pas un moment où on n'a plus rien à faire pour prendre soin de soi.
Et alors, imaginons que je suis une jeune fille qui se pose des questions justement sur sa première fois. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'est-ce que tu as envie de me dire?
Je dirais à cette jeune fille de s'écouter. Et elle me demandera sûrement qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, je répondrai qu'elle devrait prendre le temps de vraiment, encore une fois, vérifier avec son corps que son corps en a envie. Et puis, s'écouter, ça veut aussi dire que si elle en a envie à un instant T et que toutes les mesures sont prises, donc les mesures de protection, de consentement, de respect. Alors qu'elle fasse ce qu'elle veut à ce moment-là, tant qu'elle s'assure qu'elle soit en sécurité, que ça soit d'un point de vue technique, donc utiliser un préservatif ou une autre protection en fonction de la situation. Il y a même des protections pour les femmes entre elles, de l'ordre de digues dentaires.
Oui, les carrés de latex, digues dentaires.
Ouais. Exactement, les carrés, etc. Donc, je lui dirais que tant qu'elle s'assure d'un côté qu'il y a la sécurité et d'un autre le respect de son corps et le corps de l'autre, alors qu'elle fasse absolument tout ce qu'elle veut. Et qu'elle n'ait pas peur d'être ridicule, ne pas avoir peur d'être ridicule.
Ah, c'est intéressant que tu dis ça, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ça veut dire ne pas avoir peur de faire des choses qui ne sont pas en accord avec les attentes, les pseudo-attentes de la société, les pseudo-attentes qui sont véhiculées par des films ou des pubs.
Que tout est parfait, que quand on enlève ses vêtements, c'est tout fluide, alors que dans la réalité, on sait n'importe quoi, on peut tomber par terre, on est à moitié déshabillé, qu'un préservatif, c'est la galère, ce genre de choses.
Exactement. Exactement. Je dirais protège-toi, respecte-toi et n'aie pas peur d'être ridicule.
Est-ce que tu dirais la même chose à un jeune homme?
Alors, un jeune homme, oui, je dirais la même chose. Protège-toi, respecte-toi et n'aie pas peur d'être ridicule. Ouais, je pense que c'est pareil.
Ouais. Et le pas peur d'être ridicule, c'est vrai que ça, alors je ne le formule pas de cette manière-là forcément, mais c'est plus aussi dans le sens, n'ayez pas, enfin, amusez-vous quoi, et que c'est ok d'être maladroit, de sentir, là je parle plus quand c'est des fois des couples où ça fait déjà quelques années qu'ils sont ensemble et qu'ils n'osent plus, ou que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait, et quand ils le font, soudainement on se trouve gauche, on se trouve ridicule, justement, n'ayez pas peur d'être ridicule à ce moment-là, n'ayez pas peur d'être... C'est ok, vous allez être maladroit, vous allez peut-être avoir les joues en feu, peut-être que vous allez dire « oh là là, j'ai l'impression d'être une ado ». Eh bien, jouez-en, quoi.
Absolument. Et le terme « ridicule » dans ce contexte-là, ça renvoie au ridicule aux yeux de la société. C'est pas vrai qu'on est ridicule, en fait, mais dans le sens... selon ce qu'on nous a toujours fait croire, n'ayons pas peur d'être ridicule.
Voilà, cette pression du paraître, cette pression que tout doit être parfait, cette pression que tout doit être fluide, alors que non, c'est loin d'être le cas, quoi. Et tu parlais aussi, à un moment, tu parlais de cette non-éducation sexuelle qu'on n'a pas. Et tu dis aussi que tu es souvent nourrie par ton éducation au Maroc. Est-ce que pour toi... Est-ce qu'il y a une éducation sexuelle qui est différente? Alors, je sais, j'entends bien que l'éducation sexuelle, comme on l'a dit, n'existe pas vraiment dans les écoles ou dans les familles, mais dans les messages perçus.
Je dirais que l'éducation sexuelle au Maroc et dans plein d'autres pays d'ailleurs est inexistante. Et que les messages qui sont souvent véhiculés, c'est à peu près pareil que dans les autres pays où l'éducation sexuelle est inexistante, mais ils sont quand même saupoudrés de croyances limitantes qui sont liées à la culture d'un pays ou d'un autre. Donc souvent, il va y avoir des mythes qui vont prendre beaucoup de place que dans un autre endroit. Mais... ce manque d'éducation sexuelle et les répercussions que ça a sur la sexualité des êtres humains, c'est pareil partout. C'est juste qu'il va y avoir certaines pressions qui vont être plus présentes dans un pays ou un autre, dans une région ou une autre, vraiment en fonction des croyances et des cultures.
Est-ce que tu as un exemple qui te vient justement de quelque chose?
Je vais prendre un exemple du mythe de la virginité. c'est quelque chose qui existe à peu près partout, de moins en moins, je l'espère, mais qui persiste au Maroc et dans d'autres pays, notamment les pays musulmans. Parce qu'on a fait depuis des siècles de la sexualité féminine quelque chose d'extrêmement sacré, et par là même de la virginité. La virginité qui est considérée comme un cadeau qui sera fait à un élu, et une femme qui n'est pas vierge, bon, je vulgarise, n'est pas une femme de bonne qualité, on va dire, dans cette approche-là de cadeau qu'elle va donner à son futur mari. Bien sûr, les mentalités évoluent, et au Maroc, il y a énormément de choses qui se passent, énormément de mouvements, énormément de femmes qui commencent à faire passer des messages très importants. Mais je sais que ce mythe est encore présent dans la psyché des gens, que ce soit au Maroc ou d'autres pays arabo-musulmans. Mais pour ce qui concerne les jeunes, je suis totalement... positive. Non,
oui, positive, pouce en l'air. Je suis totalement pouce en l'air. Elle me fait le signe pouce en l'air. Je suis totalement... je sais ce que tu veux dire, que tu es plus optimiste pour les jeunes, non, les générations à venir, peut-être.
Oui, ce qui se passe au niveau des générations à venir, c'est extrêmement positif.
Positif, ouais.
Et partout d'ailleurs, et même dans les pays arabo-musulmans, arabo et ou musulmans. Donc, il faut juste peut-être attendre que les générations d'avant partent et que ces messages positifs-là se propagent au maximum.
Et cette révolution, ce mouvement, est-ce que c'est dû, selon toi, justement, aux réseaux sociaux, à faire partager des messages partout dans le monde et à s'unifier aussi, ça se dit ? En tout cas, collectivement, à faire passer un message.
Absolument. Je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle majeur. L'activisme digital, le militantisme digital a pris une ampleur dans le monde entier. Et même s'il y a d'autres types d'actions qui ne sont pas en ligne, je pense que ces réseaux sociaux-là permettent d'amplifier les voix de manière assez... d'amplifier ses voix de manière assez...
Ouais, amplifier, quoi. C'est déjà d'amplifier, c'est de manière... oui, et multiplier, je pense. Exactement. Vraiment multiplier. Multiplier un message collectif, quoi, finalement. Et de se sentir moins seul On a du mal ce soir, dis donc, à parler. Ah là là. Mais bref, en unifiant, je ne sais même pas si ça se dit, en unissant, oui, oui. Mais voilà, c'est ça qu'ils disent, c'est en unissant nos voix, on réinvente des mots ce soir, en unissant nos voix, on se sent moins seul et ça permet d'avoir des actions, un mouvement, une révolution, comme tu disais. On va y arriver. Et sur ta page Instagram aussi, tu partages beaucoup, comme je disais, beaucoup de corps ou la diversité des corps, où tu parles aussi de complexes, des injonctions liées à l'apparence. Est-ce que ça aussi, ça peut avoir un impact sur son plaisir intime et sexuel?
Absolument. On en parle d'ailleurs dans le documentaire Mystère et boule d'orgasme. Quand on a des a priori, une certaine pression de l'apparence, quand on se pose la question sur comment l'autre va nous voir, quand on anticipe la pensée de l'autre, on peut avoir plus de mal à se concentrer sur son plaisir. Parce qu'on mentalise, je pense, et j'ai l'impression que plusieurs jeunes peuvent souffrir de cela, que ça soit lié à la présence de poils, que ça soit la forme de son corps ou de certaines parties du corps, l'apparence de son sexe, que ça soit pour les hommes ou pour les femmes, le mythe de la virilité qui pèse sur les hommes par rapport à leur pénis, la taille de leur pénis, ou bien cette pression-là que les femmes peuvent ressentir vis-à-vis de leur vulve, de leur vagin. J'ai déjà reçu des messages de personnes qui me demandent si je recommanderais les process de rétrécissement vaginaux.
La myoplastie, nymphoplastie, ouais.
Exactement. Je réponds que je n'ai pas les informations nécessaires pour vraiment me faire un avis là-dessus, mais qu'a priori, j'ai l'impression que ce n'est pas très naturel et que... Donc,
que ça répond peut-être aussi à cette injonction à l'apparence de la vulve, à faire croire que c'est pas normal s'il y a une lèvre qui dépasse une autre, que ça doit être tout lisse, tout comme les films, ce qu'on peut voir dans les films porno, et qu'elles doivent toutes se ressembler.
Oui. Je me souviens aussi, donc quand j'étais jeune, une personne qui m'a dit « Ah, j'ai essayé la cire orientale, donc c'est une sorte de cire au miel et au sucre. C'est franchement génial, il faut que vous l'essayiez parce que ça fait la même vulve qu'une actrice porno. » Et à ce moment-là, c'est rentré par une oreille et ressorti de l'autre, mais avec du recul, les années sont passées et je me rends compte qu'on avait quand même 16 ans à ce moment-là et qu'il y a déjà un impact. Oui.
Donc c'était entre copines de 16 ans où on partage les bons conseils, entre guillemets, ou les conseils, on va pas dire ni bons ni mauvais. Exact. Et un des conseils c'était utilise la cire orientale donc pour enlever tous les poils et ça fera comme les femmes qu'on voit dans le porno parce que apparemment c'est chouette de ressembler à ça ou parce que ça devrait ressembler à ça.
Après pour les personnes qui ont envie de ressembler à ça, pourquoi pas? C'est ok, mais je pense qu'il faut vraiment creuser sur le pourquoi et ne surtout pas en faire une pression et se dire qu'on est des êtres humains, donc finalement des animaux aussi, et que si on n'avait pas de poils, ça serait pas normal.
Ouais. Oui, puis en plus, je fais le lien avec plaisir, c'est vrai que les poils, il y a des récepteurs sensoriels aussi quand on a des poils avec les bulbes. Alors, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, je ne suis pas experte du poil, mais il y a des récepteurs sensoriels qui font qu'une caresse sur un bras poilu, une caresse sur une cuisse poilue ou peu importe, on peut le ressentir en termes de sensations, des fois multipliées, parce que justement, il y a ces récepteurs sensoriels, et donc de s'épiler, de les enlever, on peut peut-être s'enlever du plaisir. Mais encore une fois, on peut peut-être avoir plus de plaisir parce que justement, on n'a pas ces poils et qu'on est libéré de moi, je me sens bien dans mon corps quand il est épilé aussi.
Exact. Je pense que la conclusion, c'est faire comme on veut. Si on se sent mieux en étant épilé, rasé, peu importe, tant que ça ne constitue pas une pression et une corvée en fait, et de la charge mentale en plus. Si c'est quelque chose qui te va, vas-y, mais sache que tu n'as pas besoin de ça pour faire du sexe.
C'est bien de le rappeler. Avant ma question finale. Quel est pour toi le grand mystère de l'orgasme, s'il y en a un? J'ai voulu vraiment associer, tu vois, ton titre « Mystère et boule d'orgasme » et me dire, tiens, quel est pour toi le grand mystère de l'orgasme? Je ne sais pas qu'est-ce que je m'attends comme réponse, mais je me suis dit, je vais te la poser, on verra bien.
Alors, je pense que le grand mystère de l'orgasme, c'est qu'il n'y a pas de mystère. Et que comme tous les corps sont différents, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe ton genre, chaque mystère est propre à chacun et à chacune. Ton mystère à toi sera lié à ton corps, tes zones érogènes, ta manière de prendre du plaisir. Et il n'y a pas de règle générale, donc des mystères personnels et individuels. Ça y est, c'est n'importe quoi.
j'adore. Bah, écoute, hein, ma question aussi n'avait peut-être pas de sens, mais voilà. Mais bon, ma question finale, elle est importante quand même aussi, oui. et peut-être ça va rejoindre ce que tu disais, mais si les personnes ne devaient retenir qu'une chose de l'éducation sexuelle ou de la sexualité, quelle serait pour toi la chose, celle qui te vient en tête en premier ?
Celle qui me vient en premier, ça serait le consentement. Je continuerai par le respect et s'amuser. Ou pas, hein, si on n'en a pas envie. Il y a des personnes qui ne font pas de sexe, qui ne ressentent pas du tout le besoin de faire du sexe et qui trouvent d'autres manières de s'amuser et de se donner du plaisir. Et c'est complètement OK aussi.
Ouais, c'est vraiment un plaisir avec un grand P, donc de s'amuser de la manière dont on souhaite. Donc comme tu l'as mentionné, pas forcément en termes de sexualité, mais on peut prendre des plaisirs en mangeant un bon plat, en faisant une activité qui nous met en joie, etc. quoi. Ton documentaire, on peut toujours le voir, hein. Apparemment, il est toujours disponible sur France TV, c'est bien ça ?
Tout à fait, il est encore disponible pour l'année 2023.
Ok, donc je le mettrai du coup dans les liens. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver, te poser des questions, ou même te dire bah, « j'ai adoré ton partage dans le podcast Camille parle sexe ».
Sur Instagram, par DM, je suis accessible.
Ok, donc je mettrai toutes les informations dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Aïcha pour ton temps et tes partages.
Merci à toi Camille, c'était super.
À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode. Donc merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme. Et donc j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité des choses pour vous. D'ailleurs, dites-le moi, qu'est-ce que cet épisode vous a suscité, qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité, de votre sexualité. Laissez dès à présent des étoiles, des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, voire même un avis, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients, ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille parle sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.